C'est un beau passage. C'est un passage, je trouve, qui est réconfortant, qui est encourageant. Le Seigneur nous a promis que... Le Seigneur nous a promis que, bon, tous ceux qui seraient fidèles à lui, eh bien, seraient persécutés. Mais ici, il y a une parole réjouissante. Eh bien, voici ce que dit... Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Heureux ceux qui vivent fidèlement comme le Seigneur le demande. » Regardez la promesse qui s'ensuit. Qu'est-ce qu'il dit? « Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Alors, frères et sœurs, on a toujours l'image que quand on monte, quand on part d'ici, on s'en va au ciel et que, comme l'Ecclésiaste dit, l'Esprit retourne à son Créateur. Il y a aussi les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous qui vous accompagnent. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte qui le dit ici. « Heureux tous ceux qui meurent dans le Seigneur. Vos œuvres vous accompagnent. » Et vos œuvres, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que vous avez semé. C'est ce que vous avez récolté par la grâce de Dieu. C'est la parole de l'Évangile. Pourquoi? Pourquoi vos œuvres sont capables de vous suivre? Parce que c'est l'Évangile, elle va durer pour l'éternité. L'Évangile, eh bien, ce que vous avez semé, ça va transcender la planète, ça transcende le temps et ça mort, et ça, vous allez passer l'éternité avec ce que vous avez semé, avec ce que vous avez récolté par la grâce de Dieu. Hein? Dieu arrose, Dieu fait lever. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire quoi? Souvent, on vit dans un monde où on fonctionne que par les résultats, quoi. Si tu n'obtiens pas de résultats, tu es un nul, tu es un incapable, tu es un inqualifié, quoi. Mais avec le Seigneur, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le Seigneur, c'est toujours la même méthode depuis toujours qu'il utilise avec ses enfants. Et vous semez, vous pensez que, bah, j'ai perdu mon temps, mais vous êtes peut-être la première chaîne du maillon, le premier maillon de la chaîne que Dieu a placé sur le chemin de quelqu'un. Vous avez déposé une semence éternelle dans le cœur de cette personne-là, et nous savons que toute parole qui est semée ne retourne jamais en vain auprès du trône de la grâce de Dieu. Alors le Seigneur, il est pas là pour nous dire, écoute, c'est bon, regarde, tu as été chercher 100 âmes depuis que tu me connais, et avant de mourir, ces 100 âmes-là vont t'appartenir. Écoutez, ça, le Seigneur, c'est pas là-dessus que le Seigneur base, finalement. Le Seigneur a fondé son Église pour nous amener dans un système de performance, quoi. C'est lui qui performe à travers nos bouches, c'est lui qui performe à travers nos mains, et c'est lui qui dépose dans le cœur cette semence qui sort de notre bouche, eh bien, elle fait son chemin, et qu'est-ce que Paul nous dit? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, les gens, quand on sème, semer, ça veut dire quoi? On n'est pas là pour parler de nous, on est là pour parler de la personne qui nous a sauvés, de la personne qui nous donne cette espérance vivante à travers la résurrection ce matin, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes amen à ça? Vos œuvres vont vous accompagner. Alors, on n'a pas été sauvés pour que notre fessier demeure sur nos chaises, bien assises, bien au repos, en attendant le retour de Jésus-Christ. On a été sauvés pour communiquer aux gens ce qu'on a reçu du Seigneur Jésus-Christ. Le pardon de nos péchés, la vie éternelle. Et ça, c'est l'espérance vivante. Ça, Paul résume ça, toutes les épîtres résument ça dans deux mots, une espérance, trois mots, une espérance vivante. Et je le répète souvent, le monde n'a qu'à offrir une espérance décevante aux gens de ce monde. Pourquoi? Ils travaillent, les gens, il y a des gens qui perdent leur vie à essayer de la gagner à l'extérieur, il y a des gens qui ruinent leur ménage parce qu'ils travaillent, ils ont deux emplois, et à la fin de leur vie, ils vont devoir tout abandonner ça, laisser ça ici, parce qu'ils ne peuvent rien apporter de l'autre côté. Parce que ça, ce sont des produits de la terre. Et Jésus était clair, les produits de la terre sont appelés à disparaître un jour. Mais les œuvres que vous accomplissez en Jésus-Christ, celles-là, elles vont durer pour l'éternité. Alors moi, ce matin, j'aimerais bien qu'on s'accroche à cette promesse dans Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Quand vous proclamez l'Évangile, vous ne perdez jamais votre temps. Jamais votre temps. Le Seigneur ne l'utilise pas pour semer cette graine éternelle pour vous faire perdre votre temps. Le Seigneur rencontre des âmes à les chercher. Et j'espère que par la foi, comme il dit à l'apôtre Paul dans le livre des Actes, il y a encore un nombre incalculable à l'extérieur qui m'appartient. Et Dieu veut que son Église aille chercher ces âmes-là. Amen. Tournez avec moi dans un tout autre décor, 1 Roi chapitre 20, les versets 20 à 29. Notre frère Guillaume, il y a trois semaines, nous avait parlé du pardon. Et moi, je vais vous parler de d'autres choses. Le pardon, c'est encourageant, c'est vrai, c'est magnifique. Savoir qu'on est pardonné, qu'on n'est pas condamné. Et il nous a apporté vraiment un message édifiant et très stimulant. J'aimerais vous encourager ce matin avec un message. Je vais garder les grosses pierres pour le mercredi soir en étude biblique. Mais ce matin, j'aimerais vous encourager, et j'espère que ça va vous encourager ce message parce qu'il m'a fortifié. il m'a encouragé, c'est que le titre de mon message ce matin, c'est qu'il est toujours Dieu, même quand on se trouve dans la vallée. Dieu est toujours Dieu, même quand on se trouve dans la vallée. C'est facile de dire que Dieu est Dieu, puis qu'on loue le Seigneur quand on est au sommet de la montagne, mais quand le Seigneur permet à travers les épreuves, à travers les situations difficiles qu'on descende jusque dans la vallée, eh bien, souvent on se dit, mais où il est Dieu? Où il est Dieu? Il m'a abandonné. Mais rappelons-nous, on va voir une belle histoire ici qui nous rappelle que Dieu, même dans la vallée, Dieu demeure le Dieu de ses enfants. Dieu demeure le Dieu tout-puissant qui tient l'univers dans sa main, qui tient notre vie dans sa main et qui nous conduit jour après jour dans le chemin qu'il a tracé pour nous. Alors le prophète, verset 22, s'approcha du roi d'Israël et lui dit, « Va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. » Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, « Leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. » Et ce message ici ce matin va nous montrer que les Syriens se trompaient. Dieu, c'est pas juste un Dieu des montagnes, Dieu, c'est aussi un Dieu des vallées. Et le psalmiste l'avait très, très bien compris. Qu'est-ce qu'il dit? Psaume 23, verset 4. Vous devez lire ça, vous devez l'apprendre par cœur. Bon, je laisse ça en français courant, je vais vous lire en allant une seconde. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit pas quand je marche dans la vallée de la mort, il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et ça signifie ça, ça signifie quoi ça? Frères et sœurs, pour qu'il y ait de l'ombre, il faut qu'il y ait de la lumière. Et déjà le psalmiste ici a à l'esprit son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Peu importe s'il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, s'il y a de l'ombrage, c'est parce que la lumière est là aussi. Et il sait que s'il est dans cette vallée, rien là. Et en tant que chrétien, croyant de l'Ancien Testament, il savait que son Dieu était aussi là dans la vallée, comme il était sur la montagne quand il se cachait de Saül. Son Dieu était là. Et ce matin, je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas où est votre situation ce matin. Peut-être que vous êtes au sommet de la montagne et vous pourriez monter sur les chaises et louer le Seigneur ce matin. Et vous êtes peut-être au plus profond de la vallée, dans le creux de la vallée. Vous vous demandez où est Dieu ce matin dans votre vie parce que vous ne le ressentez pas à cause des épreuves difficiles, une situation difficile que vous vivez. Mais ce passage ce matin va nous montrer, va nous encourager, parce qu'il va nous confirmer que si vous êtes dans le plus profond de la vallée, peu importe la situation que vous vivez, Dieu demeure le même Dieu. Et autant il peut faire des miracles dans vos vies quand vous êtes au sommet de la montagne, autant il peut faire des miracles lorsque vous êtes dans la vallée, quoi. Dans la vallée. Et Pierre nous le dit, pourquoi les épreuves? Pour qu'on puisse être en mesure de tester la valeur de notre foi. C'est facile de dire, ah, Seigneur, merci pour tout ce que tu me donnes quand j'ai des millions sur mon compte de banque. Merci Seigneur quand merci pour la maison que tu m'as donnée quand elle est payée. Merci pour la nourriture quand les deux travaillent. Merci pour les enfants que tu m'as donnés quand tout le monde a un emploi, qui ont quitté la maison, qui ont des enfants, que c'est le bonheur total. Mais quand il arrive un décès, quand il arrive une maladie, quand il arrive ci, quand il arrive ça, hop, on commence à dégringoler du sommet de la montagne. Est-ce qu'on est capable de continuer à dire, Seigneur, je reconnais que tu demeures quand même Dieu, même dans l'épreuve. Je reconnais, Seigneur, que tu gardes quand même ma vie. Ma vie quand même entre tes mains, tu as le plein contrôle, Seigneur, de la situation, même si je suis dans le plus profond de la vallée. Dites amen à ça. On continue ici. 24. Fais encore ceci, ôte chacun des rois de son poste et remplace-les par des chefs, et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis nous les combattrons dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et fit ainsi. L'année suivante, Ben-Hadad, passa les Syriens en revue et monta vers Aphek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue, ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit. » Et ça, là, on a un beau témoignage ici. Ce que les gens ont besoin d'entendre, là, de la bouche des serviteurs du Seigneur, de la bouche des enfants du Seigneur, c'est « Ainsi parle l'Éternel. » Pas « Voici, je vais te donner mon opinion, voici ce que je pense de ta situation. » « Ainsi parle l'Éternel. » L'Éternel, il est le Dieu de toute consolation. L'Éternel, il est le Dieu de tout réconfort. Ce que les gens ont besoin d'entendre, « Ainsi parle l'Éternel. » Je parle pas de ma, je te donne pas mon opinion. Je vais te dire ce que Dieu pense de ta situation. Je vais te dire maintenant la solution que Dieu a à ta situation. Ainsi parle l'Éternel. Et là, c'est un serviteur de Dieu qui commence son message. Ainsi parle l'Éternel. Parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Ils campèrent 7 jours en face les uns des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Le reste s'enfuit de la ville d'Afek et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Hey, on peut louer le Seigneur ce matin parce qu'on n'a pas juste le Dieu. Dieu n'est pas seulement le Dieu des montagnes, il est aussi le Dieu des vallées. Et autant sur la montagne, il peut faire des ravages, autant dans la vallée, il peut faire des ravages aussi vis-à-vis nos ennemis. Avez-vous remarqué l'image ici? Ça m'est passé inaperçu la première fois que je l'ai lu, mais au verset 27. Pour l'ennemi, l'adversaire qui est le diable, on a de l'air des petits troupeaux. Ah, c'est ce qu'il dit ici, hein? Ils campèrent vis-à-vis d'eux semblables à 2 petits troupeaux de chèvres. Ouais. On a de l'air des minables pour l'ennemi de nos âmes. On a de l'air des petits troupeaux des chèvres, des bêtes sans défense. Et pourtant, l'ennemi doit se rappeler jour après jour que derrière nous se trouve notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ, qui nous a rappelé dans une promesse en Matthieu 28, 20, « Sachez-le, et voici, je serai avec vous tous les jours, et ce, jusqu'à la fin du monde. » Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour ta parole. Ta parole qui nous rappelle que c'est toi qui parles. Ainsi parle l'Éternel. Et Seigneur, tu nous dis que toute parole, Seigneur, qui vient de ce livre, des Écritures, Seigneur, de cette parole qui est descendue du ciel, que tu as donné des hommes et que tu as placé, mis par écrit dans ce livre, qui est là pour le salut de nos âmes, pour nous fortifier, nous consoler, nous réconforter, nous exhorter, nous reprendre quand il le faut. Et bien que cette parole puisse agir en nous ce matin. Parce que tu nous rappelles que celui qui entend cette parole, lorsque son cœur est ouvert, elle ne retourne pas en vain. Elle ne retourne pas sans effet, sans avoir produit son effet. Elle ne retourne pas vers toi sans qu'elle ait bousculé le cœur de quiconque entend cette parole. Et nous voulons nous rappeler ce matin que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Loué pour notre Sauveur bien-aimé, c'est en son nom que nous te prions. Et le peuple de Dieu dit Amen. C'était une période difficile, on voit, hein, si on fait la lecture à partir du chapitre 20, on voit ici que c'était une période difficile pour les Israélites. Le méchant roi Achab s'était rendu coupable d'avoir poussé le peuple à adorer le dieu des Cananéens, c'est-à-dire Baal, plutôt que le dieu, l'éternel Dieu, le dieu des Israélites. Et de telle sorte que la méchanceté s'était répandue à une vitesse incroyable en Israël, et Dieu s'apprêtait à juger son peuple. Et on le voit à l'extérieur aussi aujourd'hui, les temps ne changent pas quand on est face à une société qui a abandonné Dieu. Eh bien, les conséquences, elles sont immédiates et elles vont aller en empirant, c'est quoi? Eh bien, quand on abandonne Dieu, eh bien, la méchanceté se répand partout sur la terre et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Dieu le confirme à travers différents épisodes dans les Écritures et c'est une promesse aussi de la part de Dieu. Et il nous dit qu'avant le retour de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, la méchanceté se sera répandue sur la terre comme jamais, jamais auparavant. Et ce matin, je ne suis pas là pour vous parler de la fin des temps, mais simplement vous rappeler ici qu'Achab avait détourné le peuple de l'adoration qu'il devait à son Dieu pour se tourner vers le Dieu Baal, le Dieu des Cananéens. Et Dieu s'apprêtait à porter un jugement. Mais entre-temps, Israël, ici, on le voit dans ces versets 22 suivants, Israël est attaqué. par la Syrie, qui était son pays voisin situé à l'est. Et au plus fort de la bataille, Dieu va permettre à Achab et aux Israélites de vaincre les Syriens. Cependant, Achab est informé que les Syriens n'acceptent pas si facilement la défaite, verset 22. Et il est averti que le roi de Syrie va monter à nouveau l'année suivante pour lutter contre Israël. Et c'est cette deuxième bataille que j'aimerais examiner ce matin avec vous, car les vérités qui nous sont enseignées dans ce passage nous aiderons tous sans exception à cette époque difficile dans laquelle nous vivons à faire confiance au Seigneur. Amen. J'aimerais ajouter ici que l'armée syrienne est une image de notre adversaire, le diable. Lorsque le Seigneur nous permet de remporter une victoire sur lui, vous pouvez être certain qu'il reviendra vous combattre à nouveau un autre jour, parce qu'il désire vous vaincre d'une manière ou d'une autre. S'il ne peut vous vaincre dans un domaine de votre vie, il changera sa stratégie pour vous attaquer d'une autre façon. Et Pierre nous rappelle, et Pierre nous exhorte, et Pierre nous avertit. Il le définit très bien. Il dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et c'est vrai que le diable est sans pitié pour les enfants de Dieu. Ce qu'il veut, c'est de les faire, sa stratégie, c'est de nous faire quitter le sommet de la montagne, nous faire descendre dans la vallée, nous amener dans une déprime, dans un abattement, dans un découragement total, parce qu'on est neutralisé pour proclamer l'Évangile. Parce que quand on est dans la déprime, l'abattement et la dépression, eh bien, on est neutralisé pour témoigner de la joie et de la paix qu'on a reçue du Seigneur Jésus-Christ. Et ça fait partie, on a besoin de savoir que ça fait partie de la stratégie du malin. Nous décourager, nous abattre, pour nous neutraliser, pour servir l'avancement du royaume de Dieu. Et nous allons voir que c'est exactement ce que l'armée syrienne a essayé de faire contre Israël. Cependant, comme tout comme Israël a remporté sur la victoire sur les Syriens, nous pouvons vous aussi, vous et moi, oui, remporter la victoire sur notre adversaire. Remarquez quelques vérités toutes simples dans ce passage qui nous rappellent que l'Éternel, je vais le répéter souvent dans le message, que l'Éternel est toujours Dieu, même dans les vallées de notre vie. Même lorsque nous circulons dans les vallées de notre vie, l'Éternel demeure notre Dieu. Il demeure le même Dieu. Verset 23. On voit ici au verset 23 que les Syriens sous-estimaient le Dieu des Israélites. Ils avaient été vaincus lors de la première bataille sur les montagnes qui environnent la Samarie. Et ils en étaient arrivés à la conclusion que le Dieu des Israélites était quoi? Seulement un Dieu de montagne. Et ils vont donc changer de stratégie et pousser les Israélites à combattre lors de la prochaine bataille, à combattre où? Dans la vallée, où ils pensaient qu'ils pourraient facilement les vaincre. Et pour les Syriens, cette stratégie, ce pari va s'avérer désastreux, et c'est aussi le même pari que le diable, frères et sœurs, fait tout le temps. Mes amis, lorsque nous sommes spirituellement sur la montagne, il est difficile pour le diable de nous manipuler. Quand nous marchons fidèlement avec Dieu, le cœur rempli de joie, nous sommes forts. Amen. Il est donc difficile pour Satan de faire tomber un chrétien qui est stimulé par les promesses de son Sauveur bien-aimé Jésus-Christ. La grande catastrophe dans l'Église aujourd'hui, c'est que non seulement on ne s'empare pas des promesses qui sont dans la parole, mais on ne peut pas s'en emparer parce qu'on ne prend pas le temps d'examiner la parole et de connaître les promesses que Dieu a pour chacun de nous. Il y a une grande vérité que j'ai retenue de mon doyen à la faculté de théologie à Mont-Jamalon. Il disait, l'Église d'aujourd'hui a tellement de technologies à sa portée, mais c'est l'époque où l'Église est la plus ignorante des Écritures. Tellement que nos cerveaux sont devenus paresseux à recevoir, sans faire d'efforts. Et c'est vrai que la méditation des Écritures, ça demande des efforts. C'est vrai que de mémoriser les promesses de la parole, ça demande des efforts. Mais quand cette promesse, on la mémorise, quand on commence à la méditer, et qu'elle commence à prendre racine dans nos cœurs, eh bien ça, c'est un domaine que le diable ne sera jamais plus capable de venir toucher. Parce que cette promesse, c'est comme une colonne qui n'est pas ancrée dans notre cœur. C'est des colonnes, les promesses, ce sont des colonnes, ce sont des remparts qu'on place autour de notre cœur pour empêcher le diable de venir nous démolir, nous voler notre joie, nous voler notre paix, venir nous amener dans l'abattement, venir nous amener dans le découragement total au point où on pourrait tout abandonner. Et souvent, on lit de notre Père, hein, on dit, espère, ne nous soumets pas à la tentation, mais c'est pas juste la tentation de pécher, c'est la tentation d'abandonner la foi aussi. Hein. Et Paul l'explique très bien dans une autre épître. Hein. Oui. Nous, on dit, ne nous soumets pas à la tentation, c'est au péché. Non. Seigneur, ne permet pas que je sois tenté de tout abandonner, Seigneur. Ne permet pas que j'aille jusque-là, Seigneur. Oui. Et on a besoin de ces remparts dans nos cœurs. Dieu veut faire tomber des forteresses qu'on a reçues du monde, mais pour les remplacer par des murailles, des murs qui proviennent de la parole de Dieu. Et ces murs, ces remparts, ce sont les promesses. Ce sont les promesses qui sont contenues dans la parole. C'est peut-être pour cette raison que Néhémie disait que la joie du Seigneur sera votre force. Néhémie chapitre 8, verset 10, la joie du Seigneur sera votre force. La joie de savoir que Dieu, lorsqu'il promet quelque chose, il l'accomplit. Et lorsque Jésus a promis qu'il serait avec vous tous les jours, et jusqu'à la fin du monde, vous pouvez avoir la certitude qu'il est tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est le genre de situation que Satan fait vivre à Job. Il a mis sur lui la pression en espérant qu'il abandonnerait Dieu. Toutefois, tout ce que le diable a pu soutirer de Job, et quel homme de foi, ce furent des paroles d'adoration et de louange envers son Dieu. Job chapitre 1, versets 6 à 22. Et là, Job, il n'a pas vécu juste une situation pénible. Ça lui tombait sur la tête, les mauvaises heures. Il aurait pu dire, ouais, toi t'es joyeux, mais tu sais pas ce qui m'arrive, moi. Non! Il avait les yeux fixés, le regard fixé sur son Dieu. Et ça tombait un derrière l'autre, les mauvaises nouvelles, à chaque verset. Au chapitre 1, vous avez une mauvaise nouvelle qui tombe. Et à la fin du Job, qu'est-ce qu'il dit? Nu, je suis venu dans ce monde. Et nu, je partirai. Vous savez pourquoi il est capable de dire ça, Job? Parce que Job, là, il avait aucun attachement à tout ce qu'il y avait qui était terrestre. Ses yeux étaient fixés sur les promesses du Seigneur. Job, il va dire un peu plus loin, et c'est ce qu'on a, un message que j'ai apporté ici, il savait déjà que son Rédempteur était vivant, et que son Rédempteur, c'était Jésus-Christ. Il avait les yeux fixés sur cela. Et s'il y en avait un qui aurait pu tomber dans la tentation de s'accrocher après tout ce qu'il y avait, Job, il était riche. Job, il en avait, là, à plus savoir quoi faire. Il avait une famille, une grande famille, il avait sa femme, il avait des troupeaux, il avait des maisons, il avait des serviteurs, il avait tout. Ça aurait pu être une pierre d'achoppement pour lui. Mais Job, il savait très bien que tout ça s'était appelé à disparaître un jour. Il a gardé ses yeux fixés sur ce qui était appelé à, sur ce qui est appelé à durer pour l'éternité. Amen. Ouais. Et c'est un piège pour nous, ça aussi. Dans le monde occidental, on dit que c'est le monde où l'Église décline le plus rapidement, alors qu'à d'autres endroits, ça progresse. Mais la seule place où l'Église régresse, c'est dans le monde occidental. Et moi, je pense qu'une des raisons, c'est parce qu'on a beaucoup trop de biens. On a beaucoup trop de choses. On est beaucoup trop bien. Beaucoup trop. Ouais. Et l'Église n'est pas là pour s'accaparer des biens terrestres. L'Église est là pour s'accaparer des œuvres. Apocalypse chapitre 14, 13, qui vont durer pour l'éternité. Et les œuvres, ce n'est pas des pierres qui sont là. C'est des pierres vivantes. C'est des âmes que Dieu veut sauver. Dieu veut rajouter des pierres vivantes à son édifice spirituel qui est l'Église de Jésus-Christ. Parce que c'est avec ces gens-là qu'on est appelé à vivre pour l'éternité. Si le diable vous met de la pression et que tout ce qu'il obtient de ses efforts, c'est vous entendre louer Dieu, vous pouvez être certain qu'il finira par vous laisser tranquille. Amen. Ouais. Ouais. On annonçait un jour que le diable allait mettre en vente ses outils. Le jour de la vente, il étala ses outils bien en vue sur la place du marché pour que les gens puissent les examiner un par un. En ayant pris le soin de mettre un prix à chacun des outils qu'il avait étalés. Il y avait là un ensemble d'outils dangereux comprenant la haine, l'envie, la jalousie, le doute, le mensonge, l'orgueil et le reste. Mais il y avait un outil qu'il avait déposé un peu plus loin et qui n'était pas tellement attirant, tellement qu'il était usé, mais dont le prix élevé attira l'attention des curieux. Quel est le nom de cet outil? Demanda un des acheteurs potentiels. Oh, répondit l'adversaire, c'est le découragement. Mais pourquoi le prix de cet outil est-il si élevé alors qu'il est tellement usé? Le diable répondit, parce qu'il m'est plus utile que tous les autres. Je peux réussir à pénétrer dans le cœur de quelqu'un avec cet outil quand je ne peux pas le faire avec tous les autres outils qui sont étalés devant vous. Mais une fois que j'ai réussi, je peux lui faire tout ce que je veux. C'est un outil très usé parce que c'est celui que j'utilise sur la plupart des gens. Car peu d'entre eux savent qu'il m'appartient. Le prix demandé par le diable pour le découragement est si élevé qu'il ne l'a jamais vendu. Il demeure encore et toujours aujourd'hui, frères et sœurs, son outil de prédilection contre les membres du peuple de Dieu. Quelqu'un a dit que le découragement est la poignée qui s'adapte à tous les outils du diable. Et, bon, je ne fais pas de cuisine, mais j'ai vu des batteries de cuisine. Maintenant, il y a des batteries de cuisine, on peut utiliser la même poignée pour différentes marmites. Non, hein, ça se décroche. C'est beau, la technologie. Mais j'aime bien ça, ce que cette personne a dit. Le découragement, c'est la poignée qui s'adapte à tous les outils du diable. L'idée ici, c'est que Satan sait que lorsque nous sommes sur le sommet de la montagne, nous sommes difficiles à atteindre. Par conséquent, il pense que s'il peut nous amener dans la vallée, nous serons plus faciles à vaincre. Malheureusement, il a eu raison dans nos nombreux cas, car s'il peut nous amener ou vous amener à vous concentrer sur les aspects négatifs d'une situation difficile que vous vivez, il réussira à vous décourager. S'il réussit à vous décourager, il peut vous vaincre. Et s'il peut vous vaincre, il peut vous voler la victoire que le Seigneur se préparait à vous donner dans cette situation difficile. Frères et sœurs, dans chaque situation difficile que nous vivons, le but de Dieu, c'est pas de nous détruire. Le but de Dieu, c'est de nous faire progresser dans notre foi, dans notre connaissance de la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est Pierre qui l'a dit, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Pierre qui l'a dit. Le but de toute situation difficile que Dieu permet, parce que Dieu le contrôle sur tout, ce n'est jamais de détruire son enfant. Celui qui est juste, celui qui est fidèle. Le but de Dieu, c'est de toujours l'amener à progresser dans la foi et la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Qu'un enfant de Dieu puisse dire, écoute Seigneur, ça peut arriver, dire, Seigneur, je te demande pardon parce qu'à un moment donné, j'ai douté. Mais Seigneur, tu étais là, fidèle à tes promesses, tu étais présent. Et Seigneur, tu m'as aidé. Tu m'as tendu la main, Seigneur. Et merci pour les promesses, Seigneur, qui sont incrustées dans mon cœur parce que c'est à partir de ces promesses que j'ai pu vérifier, Seigneur, que ce que tu promets, eh bien, tu l'accomplis. Merci, Seigneur, parce que tu es encore plus vivant aujourd'hui que tu l'étais hier. Les situations difficiles à laquelle on est amené à vivre ont uniquement pour but de nous faire progresser dans notre foi et dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est pas toujours, je vis une situation difficile, la première question, c'est pas toujours qu'est-ce que j'ai fait de mal. Non. C'est de dire, Seigneur, moi je t'appartiens. Je sais que tu es vivant. Je sais que tu es présent dans ma vie, puisque c'est une promesse. Et Seigneur, permets-moi d'ouvrir mes yeux, de mon cœur, pour voir quel est l'enseignement que tu veux me faire vivre à travers cette situation difficile. Pour que je puisse grandir dans ma foi. Ne permets pas au diable, ne me permets pas de tomber dans le piège du diable qui veut m'amener dans le découragement, me faire descendre du sommet de la montagne dans laquelle je me trouve pour me retrouver au plus profond de la vallée et me sentir seul et misérable. Seigneur, tu es non seulement mort pour moi, tu es aussi ressuscité, tu es vivant dans ma vie, parce que, Seigneur, je t'ai reconnu comme mon Seigneur et Sauveur. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, Paul l'avait très bien compris, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et il dit quoi? Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En, le mot « en » ici, c'est être uni à Jésus-Christ. Moi, j'essaie de pratiquer ça maintenant. Je suis plus sensible à ça, cette notion de « en Christ ». Éphésiens, c'est bourré de versets « en Christ, en Christ, en Christ ». De garder nos pensées en Christ. Mais j'ai réalisé une chose, hein. Ça, c'est le défi ultime du chrétien, de garder ses pensées en Christ. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand nos pensées ne sont pas en Christ, ils sont dans le monde. Et qu'est-ce que c'est garder nos pensées en Christ? C'est garder nos pensées sur toutes les promesses qu'il a faites à ses enfants. C'est garder nos pensées sur toute cette espérance qu'il a déposée dans nos cœurs, cette espérance vivante. C'est de garder nos pensées sur le domaine de l'éternité, parce que c'est là qu'on est appelé à vivre pour l'éternité. C'est garder nos pensées sur son retour prochain. Frères et sœurs, quand vous êtes blindés là-dedans, il est très difficile pour le diable de vous faire descendre la colline, descendre le sommet de la colline pour sombrer dans la vallée. Il est très difficile. Et s'il réussit, rappelez-vous comme le psalmiste dans le psaume 23, 4, que vous n'êtes pas dans la vallée de la mort, vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort. Et même là, la promesse de Jésus dans Matthieu 28, 20, elle se concrétise. Sachez-le, même dans la vallée de l'ombre de la mort, moi qui suis la lumière du monde, je suis avec vous, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu n'es jamais seul puisque tu m'appartiens. Amen. C'est important qu'on se rappelle de ça ce matin. Maintenant, écoutez, ces promesses-là aussi, elles s'accomplissent. Ça, c'est la partie la moins drôle du message. Elles s'accomplissent quand un enfant de Dieu marche dans la vérité. Quand un enfant de Dieu marche dans la sanctification. Un enfant de Dieu qui baigne dans le péché ne peut pas s'attendre à voir les promesses de Dieu s'accomplir. Comme les Syriens, il peut s'attendre à recevoir un jugement de Dieu, pas dans le but de le tuer, qui aime bien, châtie bien, dit la parole. Pas moi qui le dis, c'est la parole. Le but, c'est quoi? C'est de reprendre son enfant. Dieu aime son enfant, et Dieu reprend son enfant en le châtiant. Pourquoi? Parce qu'il veut le ramener. Il veut faire en sorte que c'est les promesses qu'il lui a données dans le passé puisse être de nouveau effective dans sa vie. Mais pour cela, il doit le redresser. Parce que son enfant vit dans le péché, il doit le ramener dans la bonne direction. Et souvent, la correction, elle est dure. La correction, elle est difficile. Le Seigneur ne prend pas plaisir à nous punir pour rien. Le Seigneur, il sait mieux que quiconque ce qu'il doit faire avec nous. Il nous connaît, il nous a créés. Il nous a créés. Il sait qu'on est des créatures très, très faibles. D'ailleurs, Jésus nous compare à des brebis. Et vous savez que la brebis, c'est la seule créature, la seule bête que Dieu a créée sans défense. Elle voit un loup arriver, qu'est-ce qu'elle fait? Regardez, toutes les bêtes qu'il y a dans le monde, c'est la seule bête qui est sans défense. La brebis. Frères et sœurs, si Jésus nous a comparé à des brebis, seul, on est mortellement atteignable. Mais la famille, l'Église, c'est une famille, mais les brebis ont besoin de se tenir en troupeau. Dieu n'a pas inventé des chrétiens Robinson Crusoe. Dieu a créé une Église, un troupeau de brebis, qui doivent continuellement rechercher le plus souvent possible d'être ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on peut éviter que le loup, que l'adversaire, que le lion vienne dévorer les brebis. Est-ce que le diable a essayé de vous piéger? Est-ce que le diable a essayé de vous piéger de cette façon dans votre vie? A-t-il utilisé l'outil du découragement sur vous? Je sais en tout cas qu'il l'a déjà pratiqué sur moi et sans vouloir lui donner quelconque mérite. Je sais que le découragement fonctionne mieux sur moi qu'aucune autre tactique que le diable peut tenter. S'il peut juste nous faire descendre du sommet de la montagne, nous risquons de devenir une proie facile à manipuler pour lui. D'où l'importance de bien connaître notre Dieu et ses promesses, parce que personne ne sera épargné un jour par le diable. Verset 28. Il y avait un petit problème avec l'opinion des Syriens, verset 28 ici. Un petit problème sur comment ils voyaient Dieu. Et le texte va nous rappeler ici qu'ils vont s'apercevoir que Dieu était beaucoup plus grand que ce qu'ils pensaient qu'il était. Job, cet homme de foi nous rappelle dans Job chapitre 36 et versets 22 et 26, il nous dit « Dieu est grand par sa puissance. Dieu est grand par sa puissance et sa grandeur nous échappe, dit-il. » Et au chapitre 37, verset 5, il dit « Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. » Dieu, c'est un Dieu grand. C'est un Dieu puissant. Et Dieu fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, la foi vient de soi, pas la foi qu'on vient d'entendre, mais qu'est-ce que la foi? Eh bien, vous voyez qu'il dit, ce qu'on voit a été fait à partir de choses qui n'existaient pas, qui n'étaient pas, Êtes-vous capable de tendre la main comme ça, vous, et de dire, là, vous inventez un objet, et même pas dans le dictionnaire, dans aucun dictionnaire, dans une langue, et là, qui apparaît, sans que vous bougiez quoi que ce soit, sans que vous puissiez utiliser des matériaux. Il y a juste Dieu qui a le pouvoir de créer. Les hommes ne peuvent qu'inventer. Dieu peut créer à partir de rien. L'homme, ça y prend des matériaux pour inventer des choses. Moi, ça me fait rire, créateur de la mode, créateur de ci, créateur de ça. Il n'y a rien créé, Il y a eu besoin des matériaux que Dieu a créés pour pouvoir inventer quelque chose, L'homme, ça, c'est la limite de l'homme inventé. Dieu, c'est de créer. Dieu, à partir de rien, a créé l'homme. Et quand vous lisez Genèse, vous voyez toute l'affection que Dieu porte particulièrement sur sa créature, l'homme. Les autres, il a dit, et c'est apparu. Et avec l'homme, il s'est penché, il a pris de la terre, et il l'a formé avec ses mains. Et frères et sœurs, on n'est pas n'importe qui pour Dieu, C'est extraordinaire, ça. Moi, quand je lis ce passage-là dans Genèse, ça me touche, Je me dis, c'est les mains de Dieu qui ont formé l'homme, à son image et à sa ressemblance, Extraordinaire. Alors, vous pouvez imaginer avant le péché la perfection qui devait apparaître à l'extérieur de l'homme. Pas de bouton rouge, pas de bouton brun, pas de pli, rien, Il était parfait intérieurement, extérieurement, Il avait l'empreinte de l'éternité sur lui avant de pécher, Il était parfait. Extraordinaire, Et Dieu prend du temps, il descend. Et il vient auprès de sa créature et il forme. Le premier Adam, et à partir d'Adam, il forme sa compagne Ève. Et qu'est-ce que Dieu va faire ici au verset 28? Il va envoyer son prophète dire à Achab qui allait lui-même démontrer aux Syriens qu'il était aussi bien le Dieu de la vallée que le Dieu des montagnes, assurant ainsi la victoire à son peuple. Chers amis, j'aimerais vous rappeler ce matin que Dieu est plus grand que votre vallée. Je sais qu'il est plus facile de servir le Seigneur lorsque nous nous trouvons au sommet de la montagne, parce que nous sommes stimulés concernant ses promesses et les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Cependant, lorsque nous entrons dans l'expérience, dans les expériences de la vallée de la vie, il demeure toujours Dieu. Lorsque nous entrons dans la vallée de la maladie, il demeure toujours Dieu. Lorsque nous entrons dans la vallée du découragement spirituel, il demeure toujours Dieu. Lorsque nous entrons dans la vallée de la douleur, il demeure encore et toujours Dieu. Amen. Ouais. Peu importe dans quelle vallée nous entrons, nous découvrirons que Dieu est toujours Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Dieu veut démontrer à son peuple qu'il demeure dans toutes les étapes de sa vie. Il va être en mesure de démontrer sa puissance dans votre vie et vous montrer qu'il est toujours le même Dieu. Voilà pourquoi la Bible est remplie de promesses qui nous enseignent que Dieu est en contrôle de toutes choses et que rien ne lui échappe. Quelqu'un l'a cité dans une prière tantôt, Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Une autre promesse, 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Pas quelquefois, toujours. Toujours. Il n'y a aucun mot qui a été laissé au hasard dans la parole. Vous savez pourquoi on appelle ça les Écritures, hein? Je l'ai dit déjà à quelques reprises, hein? Moi, depuis que j'ai saisi ça, ça me fascine la parole. Les Écritures. C'est pas juste Paul qui a écrit. Ce sont des paroles qui sont descendues du ciel, qui ont pénétré le cœur de chaque auteur, et que Dieu a permis qu'ils puissent mettre par écrit. Hey, c'est pas des paroles qui ont été éparpillées sur la terre qu'on a pris à droite et à gauche, hein. Ah, c'est ça que tu as vu, toi. Ah, ça, ok, ça, ouais. C'est Dieu. C'est Dieu qui a envoyé ces paroles-là dans le cœur des hommes pour qu'ils puissent être mis par écrit. C'est une parole qui descend du ciel, quoi. Elle vient directement de Dieu, ces paroles. Voilà pourquoi elle est infaillible, la parole de Dieu. Voilà pourquoi elle est entièrement inspirée, la parole de Dieu, quoi. Voilà pourquoi on peut lui faire entièrement confiance, quoi. Elle vient de Dieu, quoi. Ouais. Et Dieu a choisi des hommes pour la mettre par écrit. Et Dieu a choisi des hommes et des femmes aujourd'hui pour qu'on puisse répandre à travers, par nos bouches, cette parole qu'on a reçue, qui est écrite, qui a été déposée dans nos cœurs. Il y a d'autres passages qui nous apprennent que Dieu, notre Dieu, est déterminé à nous prouver qu'il est Dieu dans chacune des circonstances difficiles de notre vie. Nous commençons à remporter la victoire dans nos vies lorsque nous arrivons à comprendre que Satan veut que nous soyons vaincus, mais que Dieu a promis que nous pouvons marcher dans la victoire malgré les circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons. Je ne sais pas si vous avez vu sur Internet le garçon qui se promène un peu partout là, dans le monde. Il a deux bras coupés ici. Et il manque les deux jambes. Là, il est coupé juste, il reste à peu près ça de la cuisse en haut. Il rentre dans les écoles, il va témoigner. Et on peut pas le mettre sur une chaise parce que les élèves la voient pas. Donc, on place une table et on le met sur une table. Il y a le tronc. Le tronc est sur la table. Hein, c'est vraiment le tronc qui lui reste. Hein, il est vraiment là, quoi. Hein, il n'y a pas de bras, quoi. Ouais. Et ce garçon, il témoigne jusqu'à quel point. Il témoigne sa joie et la paix qu'il a reçue de Jésus-Christ. Et les gens, ils pleurent dans la salle. Il y a des gens qui se convertissent, quoi, par son témoignage. Il pourrait se lamenter. Il pourrait dire, je suis toujours dans la vallée, moi. Ben ouais. Je suis pas capable de manger. Vous imaginez la façon qu'il mange? Ouais. Vous imaginez sa capacité d'aller aux toilettes, les difficultés qu'il rencontre? Il pourrait se plaindre, hein? Dire Dieu m'aime moins que les autres, pourquoi moi j'ai perdu mes deux bras, pourquoi j'ai perdu mes deux jambes? Mais la joie qu'il a, hein, ça vous renverse, ça vous bouleverse. Vous vous dites, mais je suis qui, moi, pour commencer à me plaindre, quoi? Je suis qui? Frères et sœurs, c'est ça que le diable veut vous amener dans la vallée, quoi, dans les profondeurs de la vallée pour vous pousser au découragement et à l'abattement. Romains 8, 37, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Finalement, la véritable victoire spirituelle n'est jamais en rapport avec ce avec quoi je suis confronté dans la vie. La vraie victoire spirituelle consiste à simplement mettre ma foi dans les promesses de Dieu. Dans les promesses de Dieu. Je suis victorieux non pas parce que tout est parfait dans ma vie. Je suis victorieux parce que Dieu est en contrôle de toute ma vie et parce qu'il dit que je suis victorieux. Je puis tout par celui qui me... C'est fini. Et Dieu, je viens de le lire, Dieu nous accorde toujours la victoire en Jésus-Christ. Si je suis uni en Jésus-Christ, si ma relation, elle est ce qu'elle doit être en Christ, je suis toujours victorieux, c'est ça la promesse. Mais si j'ai un pied dans le monde, un pied dans l'Église, si je garde un péché dans ma vie et que j'utilise Dieu comme une porte de sortie d'urgence, cette promesse, elle ne peut pas tenir puisque c'est pas en Christ. Je ne suis plus en Christ. Ma relation avec Christ n'est pas ce qu'elle est. Donc, cette promesse, elle s'affaiblit. Elle ne peut pas s'accomplir dans ma vie. Ces promesses, elles sont valables toujours en Christ. Alors, si elles ne s'accomplissent pas, si elles ne s'accomplissent pas, c'est pas nécessairement la faute de Dieu. Je ne pense pas que c'est la faute de Dieu, mais Dieu veut permettre aussi qu'on s'examine. Puisque la Bible est claire, tout ce qu'il promet, il l'accomplit. Dieu n'est pas un menteur. Si elle ne s'accomplit pas, il y a un problème à quelque part. Mon but, c'est pas de vous rendre coupable ce matin, c'est pas de vous condamner. Mais facilement, on est porté à dire, parce que c'est la stratégie du malin, de dire, ah oui, ben Dieu m'en veut, c'est pour ça que je suis comme ça aujourd'hui. Ah oui, mais Dieu, il m'a oublié. Ah ben Dieu m'aime moins que mon frère et qu'il m'aime moins que ma sœur. Ça fait partie. Ça, c'est des paroles, des pensées qui viennent du diable, ça. Frères et sœurs, rappelez-vous que quand vous faites le bien, quand vous pratiquez le bien, Dieu ne vous aime pas plus. Et que quand vous pratiquez le mal, Dieu ne vous aime pas moins. Mais il est fortement attristé de voir son enfant qui baigne dans le péché et dans le mal. Et il se réjouit fortement quand il voit que ses enfants marchent dans la vérité. Mais son amour, Dieu, là, c'est pas un Dieu de sentiment. C'est pas un Dieu charismatique qu'on a. Et gloire à Dieu qu'on n'a pas un Dieu charismatique, quoi. Un Dieu yo-yo, quoi. Dieu est pas conduit par ses sentiments. Dieu est conduit par ce qu'il est, quoi. Un Dieu trois fois saint. Et c'est sa sainteté qui le pousse à faire en sorte qu'on ressemble à la personne de Jésus-Christ. Et c'est son amour qui l'empêche de nous condamner, de nous juger à chaque fois qu'on ne fait pas de travers. Il se rappelle de pas de fois qu'on a fait un jour. Il se rappelle de cette nouvelle naissance qui est passée dans nos vies. Et il sait qu'on lui appartient. Et qui aime bien, châtie bien. Il veut que nous sachions qu'il est capable de faire par la puissance qui agit en nous, indéfiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Frères et sœurs, peu importe ce que nous pensons face à la situation que nous vivons, Dieu est toujours Dieu. Honte à nous lorsque nous vivons comme s'il ne l'est pas. Un homme venait de prendre sa retraite depuis peu. Il était assis sur son balcon lorsqu'il vit le facteur déposer son premier chèque de pension dans sa boîte aux lettres. Je ne sais pas s'il y en a qui rêvent d'avoir leur premier chèque de pension. Moi, pour moi, c'est un cauchemar d'attendre. Ça s'en vient rapidement. Il allait récupérer son chèque et en se disant, il regarde son chèque, le gars, il va dans la boîte roulette, le facteur, il était assis, il y a peut-être 30 mètres, il voit le facteur, il est sur son balcon, il se barce, ça c'est québécois, il se berce dans son berceuse, rocking chair, oh merci Annick, dans son rocking chair, et là, il voit le facteur qui vient déposer sur le trottoir, dans la boîte roulette, son chèque de pension, et là, le facteur s'en va, il va chercher son chèque, et là, il regarde son montant. Et là, il se dit, retourner à la maison, il a ouvert son enveloppe, il regarde son chèque, et il se dit, est-ce que toute ma vie va se résumer à ça? M'asseoir sur le balcon et attendre que le facteur vienne déposer mon chèque de pension à chaque mois dans ma boîte aux lettres. Et cette seule idée pour lui, ça le terrifiait, quoi. Ça le terrifiait de savoir que sa vie se limiterait dorénavant à ça. Alors, il a pris un bloc-notes et il a commencé à écrire tous les cadeaux, toutes les bénédictions et tous les talents qu'il possédait. Et vous savez, je ne suis pas en train de vous raconter une histoire là, hein, des contes des mille et une nuits. C'est un fait vécu. Hein. Il les écrivait tous, même les plus petites choses. Il mit même par écrit une recette de poulet frit de sa mère, dont il était le seul à connaître et qui comprenait cette recette 11 différentes épices et herbes. Quelques jours plus tard, il se rend au restaurant de la ville qui se trouvait, et là, il demande si on voulait bien l'engager pour faire cuire du poulet. Elle dit, moi, je suis un expert du poulet, j'ai une recette toute particulière. Et rapidement, le poulet va devenir l'article le plus populaire qui se trouvait sur le menu du restaurant. Au bout d'un certain temps, il va ouvrir son propre restaurant dans le Kentucky. Puis il va ouvrir une chaîne de restaurants pour finalement vendre la franchise à une multinationale pour des millions de dollars, portant le nom de poulet frit à la Kentucky. Kentucky Fried Chicken. Vous connaissez, hein? Ouais. Il est ensuite devenu le représentant auprès du public, et ce jusqu'à sa mort. Cet homme qui a refusé d'accepter la défaite, qui était chrétien, n'était nul autre que le colonel Alan Saunders. Colonel Saunders. Vous connaissez le colonel Saunders? Ben oui, petit papillon noir avec la barbe blanche, hein? Les poulets frits Kentucky, là, voilà. Oui, oui. Très bon pour le cholestérol et... Frères et sœurs, voilà où se trouve la victoire. Remarquez que je n'ai pas dit de remporter la victoire. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà remporté toutes les victoires pour nous. Frères et sœurs, nous vivons dans la défaite, dans le découragement, parce que nous refusons d'accepter la victoire par la foi. Le juste vivra par la foi du commencement jusqu'à la fin. Par la foi. Ne permettez jamais à Satan ou à la nature humaine de vous amener à penser que Dieu est incapable ou ne désire pas vous aider. La vérité, c'est que la victoire est toujours disponible, peu importe la situation. Et ce, pour tous les enfants de Dieu. Alors pourquoi la plupart des chrétiens n'ont-ils pas la victoire dans leur vie? Simplement parce qu'ils attendent de ressentir des choses plutôt que de réclamer ce que Dieu leur a déjà donné par la foi. Ouais. Sans nommer de nom d'église, hein. Mais il y a des tendances d'église. Vous savez, les chrétiens, ils viennent le dimanche, ils sont constamment abattus, quoi. Ils viennent parce que c'est des chrétiens, c'est une catégorie de chrétiens, il faut qu'ils ressentent les choses, quoi. Mais elle venait de m'insulter parce qu'elle n'est jamais venue dans notre église, ça voulait dire que l'esprit n'a pas ici, quoi. Mais c'est une personne, vous savez, moi je sens, je vais là où il y a l'esprit. Ouais. Je savais pas que l'esprit avait une odeur particulière, mais il y a une catégorie de chrétiens qui est comme ça. Ils rentrent le dimanche matin à l'église, ils sont complètement abattus, quoi. Et là, ils viennent entendre le message, pourquoi? Chut! Ils viennent d'avoir une dose comme ça. Pss! Là, et là, ils sont rendus là. Les lundis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on vite, vite le dimanche. Plus le dimanche, j'ai besoin de ma dose, quoi. On rit, hein, mais il y a une catégorie de chrétiens qui est comme ça, quoi. Mais c'est pas ça la vie chrétienne, quoi. Je l'ai dit depuis 13 ans ici. La vie chrétienne, c'est pas une question de sentiment. C'est une question de foi uniquement. De vivre une vie chrétienne basée uniquement sur les sentiments, vous allez ressembler à une iguine. Vous savez c'est quoi une iguine? Non? Québécois, ça. Okay. C'est une scie à main avec des grosses dents, là, vous savez? Une scie. On dit ça, une iguine ici, Walter? OK. Ça va. On parle de la même scie, de toute façon. Oui, c'est toujours, toujours comme ça. Et souvent, ben, c'est des gens qui abandonnent, quoi. Mais la vie chrétienne, c'est une question de foi. Je n'ai aucun moyen de savoir ce que vous vivez aujourd'hui. Je termine avec ça. Il se peut que le diable utilise présentement l'outil de découragement dans votre vie. Il se peut que vous soyez déprimé et à 1 million de kilomètres du sommet de la montagne. Permettez-moi de vous rappeler encore une fois, avant de terminer, que Dieu est Dieu lorsque vous êtes sur le sommet de la montagne et qu'il est toujours Dieu lorsque vous vous trouvez dans la vallée. Le secret pour profiter de la montagne et des vallées, c'est d'apprendre que Dieu est en contrôle de toutes les situations que vous vivez. Si vous êtes convaincu de cela alors que vous soyez sur le sommet de la montagne ou en bas de la montagne, vous serez toujours dans votre cœur. Vous serez toujours dans votre cœur en haut de la montagne et la victoire sera toujours la vôtre. Le premier pas à faire pour y arriver, c'est apprendre à déposer vos fardeaux aux pieds de Jésus-Christ. Beaucoup de nouvelles promesses dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pardon, correspondent à celles de l'Ancien Testament et renforcent leur puissance. Par exemple, lorsque Pierre dit 1 Pierre 5-7, je vais tourner rapidement, j'ai besoin du micro. 1 Pierre 5-7. Ernest, fais bon vivre en haut ici, hein? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. On a toujours la victoire en Jésus-Christ. Ici, Pierre, il dit, déchargez-vous pas de quelques-uns de vos soucis, puis passez les autres à d'autres. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, tout. Hey, Seigneur, là, je la prends cette promesse-là. Qu'est-ce qu'il dit? Car lui-même prend soin de vous. Si vous êtes unis à Christ, vous déchargez tous vos soucis sur lui. La promesse, elle est là, il va prendre soin de vous. Et qu'est-ce que Pierre est en train ici de faire? Il est en train de répéter les paroles de David dans le psaume 55.3. Allez voir dans le psaume 55.3, c'est magnifique comment cette promesse de Pierre, elle renforce celle de David dans le psaume 55.3. Ceux qui ont leur Bible. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Remets ton sort entre les mains de l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler qui? Le juste, c'est qui? C'est pas juste celui qui a levé la main pour accepter Jésus-Christ un jour. Le juste, c'est celui qui marche dans les voies de Dieu. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Ça ne veut pas dire qu'il ne permettra jamais au juste de vivre des situations difficiles, des situations épouvantables comme David l'a vécu, mais il ne laissera jamais chanceler. C'est une promesse. Tu marches dans les voies de Dieu, Dieu dit qu'il ne t'épargnera jamais des épreuves. Dieu dit qu'il ne t'épargnera peut-être pas de passer des nuits blanches, mais il ne te permettra jamais de chanceler. Ça veut dire quoi? Il ne te permettra jamais de remettre en question son salut. Il ne te permettra jamais de remettre en question ses promesses. Il va te donner la force et la capacité d'attendre qu'il vienne te délivrer lui-même. Et on est avec un homme de foi hein, dans les psaumes. Il faut les lire, les psaumes. Hein. C'est le vécu de 2-3 hommes, ça. Hein. Il y a un vécu extraordinaire là-dedans. Et il vient nous sortir les promesses, il vient nous sortir le vécu. Il vient nous dire, il vient nous parler de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, quoi. Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra, il ne laissera jamais, jamais, le mot jamais, jamais chanceler le juste. Et je termine avec une illustration. Elisha Hoffman, qui est né à Pennsylvanie en 1839, aimait ces deux versets que je viens de citer. Son père était pasteur et Elisha fut conduit à Christ dès son plus jeune âge. Il a fréquenté l'école publique, a étudié les sciences, puis a poursuivi ses études dans une école biblique, où il a travaillé ensuite dans une maison d'édition chrétienne. Puis, il s'est marié, et très rapidement, il a perdu sa femme. Sa femme est décédée tout de suite après le début de son mariage. Et là, il est retourné dans sa ville natale, où il a consacré sa vie pendant 33 ans à être pasteur de l'église de la communauté là-bas. Et le passe-temps favori d'Hoffman, c'était d'écrire des cantiques. Qui a déjà entendu parler d'Hoffman? Non. Cet homme-là, il a écrit des milliers de cantiques qu'on chante dans nos églises. Je vais vous en donner un tantôt. Alors, son passe-temps favori, c'était d'écrire des cantiques, dont un grand nombre d'entre eux furent inspirés suite à des expériences pastorales qu'il avait vécues. Par exemple, un jour, alors qu'il travaillait auprès des plus démunis, il rencontra une femme dont la dépression semblait incurable. Elle lui ouvrit son cœur et elle lui partagea toute sa souffrance refoulée depuis plusieurs années. Se tordant les mains, elle s'écria « Que dois-je faire? » ou « Que dois-je faire? » Hoffman savait ce qu'elle devait faire, car il avait lui-même appris les plus profondes leçons de réconfort dans la parole de Dieu. Il disait à la femme, « Vous ne pouvez pas faire mieux que d'apporter toutes vos souffrances à Jésus. Vous devez tout raconter à Jésus. » Soudainement, le visage de la femme changea. « Oui, s'écria-t-elle, c'est exactement cela que je dois le dire à Jésus. » Ces paroles résonnaient dans les oreilles d'Hoffman, et il les retourna dans sa tête pendant son retour à la maison. Il sortit sa plume et il commença à écrire ces mots, « Je ne peux pas porter mon fardeau seul. » Je dois le dire à Jésus, je dois le dire à Jésus. Lui seul peut m'aider, je dois le dire à Jésus. Hoffman a prêché l'Évangile jusqu'à 90 ans, faisant connaître à Jésus ses fardeaux et écrivant des milliers de cantiques pour l'Église, dont « Tel sauveur merveilleux je possède ». Avez-vous un fardeau trop lourd à porter ce matin? Pourquoi ne pas prendre quelques instants pour en parler à Jésus? Apportez votre fardeau au Seigneur, puis par la foi, laissez-le ce fardeau à ses pieds, ainsi que tous vos soucis, comme Pierre nous a dit dans son passage, car il prend soin de vous. Après tout, frères et sœurs, le texte de ce matin nous rappelle que vous soyez sur la montagne, que vous soyez dans la vallée, il est toujours le même Dieu. Amen. Prions. Seigneur, qu'il est bon, qu'il est réconfortant, Seigneur, encourageant de savoir, Seigneur, que peu importe où nous nous trouvons dans notre vie chrétienne, Seigneur, tu demeures le même Dieu. Et que pour ton enfant qui est fidèle, qui marche dans tes voies, eh bien, Seigneur, il peut compter sur tes promesses. Elles sont effectives, elles sont efficaces pour s'accomplir dans sa vie. Merci, Seigneur, pour ta fidélité qui nous rappelle que tu ne nous feras jamais défaut. Et Seigneur, si nous nous sommes éloignés de toi, si nous ne sommes plus en Christ, tu as des promesses aussi dans ta parole qui nous dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner tout péché. Merci, Seigneur, parce que tu ne rejettes personne qui vient à toi. Merci aussi, Seigneur, parce que tu punis ce que tu aimes. Et c'est quand tu nous punis que nous réalisons souvent dans notre entêtement, dans notre endurcissement, que nous étions à côté, Seigneur, de ta volonté. Merci, Seigneur, d'utiliser les moyens que nous ne soupçonnions pas pour nous ramener dans le droit chemin, afin de nous faire grandir dans notre foi et dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen.